Bonjour, autre radio, autre culture, deuxième partie, émission qui sera également retransmise par audiopeople.fr. Alors nous abordons cette deuxième partie, toujours avec Yves Jagé, puisqu'on n'en a absolument pas terminé. La radioscopie ira jusqu'au bout. Je voulais qu'on aborde quelque chose qui était très cher, c'est le son surround. Alors, je sais également que ça a été abandonné, plus ou moins. Peut-être que cela reviendra. Et peux-tu nous expliquer ce que c'est exactement ?
Alors, ce que c'est, pour expliquer simplement le processus de diffusion multicanal qui fait qu'on répartit dans l'espace, au lieu de répartir sur deux enceintes en stéréo, on répartit sur... six canaux, dont un qui sert pour l'extrême grave. C'est un procédé qui vient du cinéma, hein, c'est pas issu de la musique du tout. Hein. C'est un procédé qui existait déjà depuis fort longtemps dans le cinéma. Et après, qui a été décliné sous plusieurs formats. Ça va jusqu'au 10 plus 2, je crois. On l'a vu, hein, déjà. Voilà, qui était un procédé fort intéressant pour. En ce qui concerne le positionnement spatial du son, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Maintenant, je pense que voilà, c'est certainement sorti. En tous les cas, en ce qui concerne le DVD audio et la musique à proprement parler, à un moment où peu opportun commercialement, parce que c'est arrivé au moment où voilà, la musique, les ventes de disques commençaient à décliner, à vraiment dégringoler sérieusement. Et le matériel, les équipements pour travailler en 5 plus 1 a augmenté sérieusement. Je pense que l'un est allé à l'envers de l'autre et que les gens qui ont investi pour faire du 5 plus 1, comme moi d'ailleurs, hein, comme le SACD, ont investi dans quelque chose qui est allé dans le mur directement, quoi. C'est-à-dire qu'aucun espoir de réalisation commerciale, ça c'est sûr. Ça, plus le fait que d'autres procédés sont venus se joindre à ça en ce qui concerne la musique et qui a intéressé fortement les maisons de disques. Parce qu'il y a deux façons de mixer en 5-1. Il y a le mixage discret, c'est-à-dire de mixer réellement sur des consoles qui sont faites pour traiter du... Et donc diriger, router le son sur les six canaux et les systèmes qui, en rentrant magiquement un mixage stéréo, ressortent six canaux par un système d'algorithme comme l'a fait, par exemple, TC Electronique. Et les maisons de disques ont été fervents de ces systèmes-là et ont mis au catalogue des albums entiers en faux 5-1, parce qu'on appelle ça de l'unwrap. Et donc ils ont mis au catalogue des centaines de titres qui ont été faits, réédités en 5-1 en arnaquant les gens, parce que c'est un processus complètement artificiel et on fabrique pas 6 canaux avec 2 canaux, en tous les cas pas d'une façon qui puisse satisfaire les exigences musicales, ça c'est sûr.
Est-ce que pour l'audio lambda c'était visible la différence ?
Je pense que de toute façon, déjà il y a un gros problème, c'est que on a appris aux gens à réduire la qualité des équipements en leur proposant des formats compressés MP3. Et déjà, je trouve qu'ils ont beaucoup de difficultés à installer correctement des systèmes stéréo. De toute façon, on n'a jamais éduqué les gens de ce côté-là, et c'est vrai que. C'est beaucoup plus facile de se prendre une gamelle avec un système 5-1 mal installé qu'avec un système stéréo mal installé. Plus on augmente la quantité de diffuseurs et de canaux, plus on a de chances de tomber sur des systèmes qui sont fortement mal installés. Ça exige une installation absolument rigoureuse et parfaite. Et je pense que les gens n'ont pas l'éducation et on les a jamais ni entraînés, ni éduqués pour arriver à maîtriser des systèmes comme ça. Je pense que c'est des systèmes qui sont vraiment élitistes et que ça fonctionne bien chez les gens qui sont fous de films et qui ont dépensé des grosses sommes pour installer des systèmes du petit canot chez eux, mais moi, je vois même bêtement autour de moi, hein, mon frère, par exemple, quand je vois son système multicanal installé, ça me fait peur. Et c'est un fan de film. Hein. Mais voilà, pour lui, que l'arrière gauche et droit soit un par terre et l'autre sur un meuble, pas avec les mêmes angles et tout, il s'en fout, lui. On lui a pas dit qu'il fallait impérativement que ce soit quelque chose de diffus et que ce soit orienté exactement de la même façon à l'arrière gauche, arrière droit, que ce soit à telle hauteur, etc., avec tel angle par rapport à l'avant. Ça devient trop compliqué. Ce sont des systèmes qui sont vraiment sophistiqués à mettre en route. C'est déjà compliqué à mettre en route dans un studio d'enregistrement qui est fait pour ça. Donc je pense que pour l'utilisateur lambda, c'est franchement compliqué. Quoi.
Pourtant, quand on voit, par exemple, dans les FNAC, ces espèces de salons auditorium où, justement, les appareils sont installés dans la quintessence des positionnements pour avoir un son optimal, les gens ne percutent pas à ce niveau-là?
Non, je pense pas. Je pense que... C'est difficile de réaliser que chez soi, on va devoir installer les enceintes comme dans un auditorium. Je pense que d'ailleurs, les gens, ils font pas tellement attention à ça. Bon, alors, il y a l'élite, hein, c'est toujours pareil. Quand on va dans des auditoriums, il y a des gens qui ont une grande habitude, qui ont des grosses collections de disques, qui ont des platines sublimes, des préamplis à fleurs, etc., des objets de grande valeur, mais ça reste un pourcentage infime. Après, les gens qui viennent écouter une perle enceinte dans un auditorium, ils se disent « je vais dans un lieu sain pour écouter une perle enceinte ». Mais après, ils ne se disent pas « moi, il faut que je mette cette perle enceinte-là pour obtenir le même résultat dans le même lieu sain hein. ». Voilà, une fois qu'ils ont choisi leur perle enceinte dans le lieu sain, bah, ils l'emmènent chez eux et puis ils la mettent où ils peuvent. Hein. Sans parler des contraintes, je dirais... bêtement au niveau des avis dans une famille. C'est rare que... Enfin, moi, j'ai installé un système 5+1 chez moi. Je reconnais que ma femme n'était pas franchement branchée par la quantité d'enceintes et le positionnement impératif des enceintes à tel endroit et à tel endroit. Donc, je comprends que ce soit... C'est extrêmement contraignant, en fait, à installer. Ce ne sont pas des systèmes faciles à installer. C'est des systèmes très compliqués à installer. Et puis après, il y a tellement de formats au niveau de l'électronique même que ça devient difficile. Les systèmes qui marchent avec des subs, les systèmes qui marchent avec sans subs, avec les subs mixés dans gauche et droite, c'est très compliqué. Il n'y a jamais eu vraiment de normes établies, même pour nous, hein, c'est-à-dire les gens qui fabriquent le 5-1 en musique, il n'y a jamais eu vraiment de normes établies, hormis dans le cinéma. Donc on ne peut pas appliquer les mêmes normes que celles qu'on utilise dans le cinéma, dans le cadre de la musique. Le 5-1, c'est subjectif. On était dans le cadre du cinéma, dans une utilisation du 5-1 qui était absolument... fait pour reproduire des sons dans un univers très réaliste. C'est-à-dire, voilà, on est dans la voiture, on claque une porte et on s'y croirait, quoi. C'est-à-dire qu'on est exactement dans la voiture. En musique, c'est subjectif. Dans le classique, les gens vont vous dire, et moi je me suis fait épingler plein de fois là-dessus, sur des forums et tout ça, mais les gens dans la musique vont vous dire, ah ben non, dans le classique, vont vous dire, on est au milieu de l'orchestre, et pour prendre la place du chef d'orchestre, c'est fantastique, on baigne dans la musique. Dans la musique pop et la variété, c'est subjectif, on a le droit à tout. Il aurait fallu éventuellement réétablir des normes, savoir le sub, par exemple, en 5-1 dans le cinéma, servait pour vraiment tout ce qui était effets spéciaux et pour donner un coup de fouet énorme à tout ce qui était extrême grave, des tremblements de terre, une moto qui démarrait avec le pot d'échappement juste à côté de l'oreille. Dans la musique, on peut pas, enfin on peut abuser évidemment, puisque ça reste subjectif, mais il faut quand même que ça reste audible et musical. Donc après, il faut que le procédé qui va servir à le décrypter chez les gens fonctionne de la même façon et que ce soit audible et décryptable. Pour régler un système correctement, un système 5-1, suivant qu'il ait un sub, par exemple, qu'il n'ait pas de sub, j'en ai même vu évidemment des systèmes qui n'étaient pas des faux systèmes 5-1 avec un centre fantôme sans vraie enceinte centrale et tout ça. Donc c'est géré avec des algorithmes qui sont complètement propriétaires et appartenant aux fabricants des équipements vendus. C'est très difficile de s'y retrouver, tant que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tant que on a perdu ce côté course entre l'audio pro et l'audio grand public, qui était menée par des gens comme Sony et des gens comme Philips. eux, ils tenaient les rênes de tout ça parce qu'ils faisaient partie des deux mondes. Dès l'instant où l'un et l'autre ont abandonné entièrement l'audio pro, le développement de l'audio pro, le matériel grand public fait ce qu'il veut, les normes font ce qu'elles veulent. Il n'y a pas de... Comment peut-on arriver à implanter le 5-1 dans le monde si, à un moment, les normes sont tellement disparates qu'on ne sait même plus où aller et que même les appareils vendus dans le grand public sont complètement différents. Il y a des appareils qui sont faits pour lire du SACD, il y en a qui lisent du DVD audio. On s'attarde plus maintenant, si on prend un peu le résultat de tout ça en 2007, on s'attarde plus à des appareils qui sont capables de lire des CD de data, de photos enregistrées sur un ordinateur et de les diffuser sur un viewer directement dans une télévision que sur vraiment le fond du problème et d'uniformiser, d'avoir une vraie norme, je sais pas, un 5-1, un DVD audio, la quantité de... Il n'y a plus de ça, plus personne n'est capable de tirer et d'imposer une norme parce que les acteurs majeurs qui étaient vraiment des gens importants là-dedans ont abandonné l'audio pro, donc à la limite... Ça va à volo, quoi. Il n'y a pas de normalisation là-dedans. Le cinéma reste toujours un acteur évidemment important et c'est pour ça d'ailleurs que c'est à peu près la seule chose en 5-1 qui se fasse correctement et dans les règles de l'art. Mais la musique, ça n'a jamais fonctionné et puis ça n'a jamais été porté par les majors. Donc dès l'instant où les gens qui sont les clients et qui payent pour ça n'y ont jamais cru et donc n'ont jamais investi là-dedans, et on fait le contraire, on investit dans des systèmes qui leur permettaient de tronquer les vrais formats 5-1 et de faire du faux 5-1 à vraiment bas prix d'une façon tellement cheap que sincèrement c'est pas audible, quoi. Voilà, ça restera une arnaque et ça l'est toujours.
Est-ce que ce format pouvait convenir à tout type de musique?
Non, sincèrement je crois pas. C'est vraiment des formats. Je pense que c'est aussi là-dessus qu'artistiquement, on n'a pas été éduqués et d'une pour ça, ça c'est clair. Donc c'est un process de mixage qui est quand même vraiment spécifique et qui est extrêmement difficile à aborder. Les gens dans le cinéma, une fois de plus, ont la science de ça. Et il faut écouter beaucoup de films pour voir comment les gens... Parce que par contre, attention, hein, je ne remets pas en cause le fait qu'il y ait des bandes originales de films qui sont absolument fabuleuses en 5-1, hein, qui mettent vraiment le frisson. Et donc, il y a forcément des gens qui savent le faire et qui savent le mixer. Mais je pense que dans la variété pop-rock, etc., on n'était pas vraiment préparé à ça et la musique ne l'était pas. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense qu'il faut reconcevoir les arrangements et voir les choses d'une façon tout à fait différente. Parce qu'au début, c'est amusant. On croit que c'est... Enfin, moi, ça m'a passionné. Mais mine de rien, c'est loin d'être évident. C'est-à-dire que pour faire quelque chose de vraiment, même justement, pas réaliste et subjectif en faisant des positionnements un petit peu bizarres et tout, c'est extrêmement compliqué d'arriver à faire quelque chose qui n'est pas déstabilisant et qui est, au contraire, qui met un peu le frisson et qui est impressionnant. C'est vraiment très difficile. Alors je dirais qu'il y a des situations dans lesquelles qui se prêtent assez bien à la diffusion 5-1, c'est le live. Parce qu'on arrive facilement à donner une sensation de dimension de salle, de salle de spectacle qui est vraiment intéressante. Mais bon, voilà, ça reste quelque chose d'assez statique, parce qu'une fois qu'on a recréé l'environnement d'une grande salle de spectacle, avec l'arrière, ses arrières, ses avants, c'est fini, il n'y a rien qui bouge. Ce qui est intéressant dans le 5-1 et quand on écoute les films, c'est justement le mouvement qui se passe à l'intérieur de tout ça, la spatialisation, le vrai cercle, on est au milieu, on est dans un vrai cercle, on vit vraiment la musique en 3D, et c'est vachement intéressant. Mais voilà, pour bien le faire et pour continuer à le faire, il lui fallu que commercialement soit un format adopté et entériné, poussé par les majors. Tant que les majors, ça reste les clients, hein, c'est eux qui décident. Hein, à un moment, s'ils ne veulent pas payer, ils ne payent déjà pas pour la stéréo, donc pour le 5-1, j'en parle même pas, quoi. C'est un format qui est mort-né en musique, c'est simple. Hein.
Alors quand on voit par exemple les ventes de disques, j'avais reçu de l'Observatoire de la musique les rappels de vente de janvier 2008 et l'on disait que la vente des disques avait augmenté de 0,4%. Alors chose exceptionnelle puisque la vente des disques de variété française se cassaient toujours autant la figure. Et en fait, ceux qui émergeaient de cette distribution, de cette vente, c'était le jazz, plus 15%, et la musique classique, à peu près 5%, 4,9% à peu près. Est-ce que cela viendrait du son ?
Non, je pense pas. Je pense que ça vient du de toute façon, il est normal que on décèle des augmentations conséquentes quand la qualité est vraiment tirée par le bas et que de toute façon, les gens qui font des albums de jazz et les gens qui font des albums classiques sont dans un processus de qualité. On parle pas de des mêmes problématiques dans ce genre de musique-là. Un album de jazz, moi j'ai mixé l'album de Sylvain Luc il y a pas très longtemps. Un album de jazz, une maison de disques comme Dreyfus, ils vont vous donner 2 jours pour mixer. Un album classique, c'est rendez-vous dans un studio. Enfin, quand je dis un studio, c'est pas un studio d'ailleurs, c'est au Théâtre des Champs-Élysées ou dans une pièce, dans une salle. Une grande salle faite pour enregistrer du classique. Et voilà, c'est ça va être couplet messe. Enfin, je veux dire, quand il va y avoir 5 micros au total pour faire la prise, c'est tout. Les besoins techniques ne sont pas les mêmes. Les besoins de production ne sont pas les mêmes. Une prise classique, ça va être des édits assez, quelquefois assez conséquents et assez nombreux en 2 pistes. Le jazz, c'est une prise et c'est la bonne qu'on garde et c'est quasiment un mixage en 2 pistes simultanées. L'album de Sylvain Luc, moi j'ai refusé de le mixer en 2 jours parce que je l'ai fait en multipiste et j'ai pris 1 jour par titre. Pour Dreyfus, c'était un scandale. Et d'ailleurs, j'ai eu 2 jours de payer, hein, ils m'ont payé que 2 jours de mixage. Ils n'ont jamais voulu, et moi je l'ai fait parce que Sylvain Luc est un ami et que j'avais envie de, voilà, d'emmener l'album un peu plus loin que des albums que lui avait déjà fait et des albums concurrents. Après, c'est pareil, tout ça, la production en variété, étrangement, fait que quelquefois, le niveau des musiciens est peut-être quelquefois un peu inférieur à certains musiciens de jazz et tout, mais la recherche est quelquefois beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus compliquée, parce qu'on rentre dans les processus de production où on cherche une couleur, et la couleur est amenée autant par le musicien, l'interprète, que artificiellement. Il y a beaucoup de... Et c'est voulu, c'est-à-dire qu'on utilise beaucoup d'artifices à la prise, que ce soit des artifices de prise de son pur, hein, du délire avec des ambiances ou des choses comme ça, surcompresser les batteries, etc. Utiliser des vieux micros à ruban, essayer d'amener de salir le son. Donc c'est des choses qui demandent beaucoup plus de temps parce que beaucoup plus de recul et beaucoup plus de sont beaucoup plus sophistiqués à fabriquer. Le jazz et le classique, voilà, on demande à des musiciens de faire une performance sur un titre et de l'enregistrer directement. Il n'y a pas la notion de revenir sur des pistes, d'empiler des pistes, de les éditer. C'est vraiment de process artistiques franchement différents. Donc je trouve ça un petit peu logique que d'abord les albums de jazz sont souvent quand même beaucoup moins chers que les albums de variété, parce que les albums de variété ils coûtent un prix maximum le premier mois et demi. D'ailleurs, comparé à avant, un album de variété, on le laissait à un prix élevé pendant les 6 premiers mois, 7 premiers mois, parce que ça fonctionnait. Tant que ça fonctionne, on veut vendre cher, c'est normal, la maison de disques veut vendre cher. Maintenant, quand un album reste à une nouveauté reste à entre 16 et 20 euros pendant 1 mois et demi, c'est le maximum. Parce qu'ils sont obligés de réduire le prix extrêmement vite, parce qu'un album est éphémère. Ça se vend, ça marche les premiers mois, après c'est fini. On ne vend plus des albums sur la longueur, bon, sauf exception. On a quelques artistes qui tiennent sur le long terme et un peu le travail de longue haleine, mais c'est... Je pense que vraiment les deux choses sont différentes, donc c'est normal que les gens qui écoutent du jazz s'intéressent plus à ces musiques qui sont enregistrées, qui restent malgré tout enregistrées dans les règles de l'art, parce que tout à l'heure, effectivement, je disais précédemment que la variété demande un travail de production qui est vraiment sophistiqué et compliqué, mais il faut savoir qu'on n'a plus de quoi le faire. Donc le problème, c'est qu'il n'y a plus de développement de nouveaux artistes, et on sait que c'est très très difficile et très long de faire du développement. Et donc, c'est normal, puisqu'il n'y a plus de qualité dans la même la variété. On a fait de la bonne variété, et il y a de la bonne variété. Je veux dire, on ne peut pas dénier, c'est pas un mot, c'est pas péjoratif, la variété. Il y a de la très bonne variété aux États-Unis, en Angleterre aussi. Hein. Ils ont la leur. Mais je pense qu'on l'a tellement tiré vers le bas, maintenant, artistiquement parlant, que voilà, les gens se retournent sur... C'est normal que les ventes de variétés diminuent, puisque les gens ne veulent plus acheter ça. C'est... On fait trop de mauvaises choses à l'intérieur de ça, donc c'est normal qu'ils aient tendance à la télécharger bien plus que des albums de jazz ou des albums classiques. Donc ça rehausse les ventes du classique et du jazz, parce qu'il reste une qualité, une certitude, une garantie de résultat en règle générale dans cette catégorie de musique. Enfin, c'est mon avis. Il y a aussi des choses très mauvaises, certainement en jazz et en classique, aucun doute. Je ne dis pas certainement, je le sais. Voilà, je pense que globalement, le jazz nécessite une qualité dont on n'est plus maître, en tous les cas, dans la variété, dans le rock et dans la pop.
Pourtant, les variétés internationales, enfin, ce qu'ils appellent les variétés internationales, parce qu'ils ne font pas de différence entre le rock, le pop, la pop et la variété, ils mettent tout dans le même sac. La variété internationale a augmenté en France. Les ventes de CD au niveau international a augmenté.
Oui, je pense que dans les gros projets de variété internationale, sincèrement, la qualité n'a pas baissé. Aux États-Unis, en Angleterre, hormis qu'évidemment, ils gagnent certainement moins d'argent parce qu'ils vendent moins globalement qu'avant, mais ils ont toujours un... Il n'y a pas tellement de place pour les choses médiocres aux États-Unis, en Angleterre, ou en tous les cas dans les pays qui sont fort concernés par ce genre de musique. Mais je pense qu'ils ont justement le fait de faire... De vendre leur musique sur l'international fait qu'ils ont encore des moyens qui sont suffisants pour produire correctement la musique. Nous, le problème, c'est que on n'a plus les moyens, comme je le disais tout à l'heure, les budgets d'albums d'artistes majeurs en France ont baissé de plus de 50% ces trois dernières années. Donc le budget des studios a baissé radicalement de 50%, il n'y a qu'à voir la quantité de studios qu'ont mis la clé sous la porte en France. Donc la qualité n'est plus au rendez-vous, et puis surtout elle n'est plus au goût du jour vu des maisons de disques, ça ne les intéresse pas. Je veux dire maintenant, pour eux la différence, le delta de qualité, et il faut le reconnaître, il faut être aussi un petit peu honnête par rapport à ça. On a donné l'accès à tout, et à tout le monde et n'importe qui, au système d'enregistrement, que ce soit Pro Tools ou des systèmes qui sont démocratisés, tout le monde peut acheter ces systèmes-là maintenant pour pas cher. Donc quelle différence y a-t-il entre un studio qui va avoir du matériel haut de gamme, chéri, avec des vieux préamplis Niv, des très bons micros, une bonne console, un système direct to disque ou peu importe, un système à bande, et un type qui a un Pro Tools Cello chez lui avec un préampli TLA d'entrée de gamme et un micro quasi moyen. Mine de rien, pour la maison de disque, le résultat, quand ils vont enregistrer une voix, le delta de qualité n'est pas suffisamment important parce qu'ils ne font plus la différence. Ils sont nourris au MP3 maintenant. Moi, je ne connais pas une maison de disque qui écoute les waves d'un mix, c'est-à-dire les mixages d'origine d'un mix. J'en connais pas un seul. Les FTP, maintenant, moi, je sers toutes les maisons de disques sur un FTP chez moi sécurisé, sur un serveur sécurisé. Ils ne téléchargent jamais les waves, ils téléchargent le MP3. Donc déjà, le problème, c'est que leur appréciation de la qualité par rapport au produit final, il y a longtemps qu'elle a été anéantie. Donc pour eux, à un moment, une voix enregistrée dans une piole avec un matériel bas de gamme, le delta de qualité entre ça et un studio qui va avoir du matériel vraiment haut de gamme et qui fait les choses dans les règles de l'art, il est plus suffisant. Ça ne leur suffit plus, c'est pas justifié. Donc ils se disent, moi je vends autant de disques en enregistrant mal qu'en enregistrant bien. Pourquoi ils enregistreraient bien ? Le problème, il est là. Et qu'on a habitué les gens à ça. Et que du coup, bah, voilà, ça a tiré les prix vers le bas. Et comment des gens dans des studios arrivent à tenir des structures où il faut payer des ingénieurs de maintenance, des gens qui vont entretenir le studio, même, je parle bêtement au niveau du ménage, hein, des assistants, des ingénieurs. C'est, ça a un coût, tout ça, c'est très cher. Et puis les locaux, c'est-à-dire qu'entre une cabine qui a été acoustiquement traitée, mais avec un vrai acousticien qui a fait l'objet d'une vraie étude et qui a une pure couleur, un vrai son, et voilà, une pièce rectangulaire aménagée avec de la mousse acoustique, la maison de disques s'en fout, pour eux c'est pareil.
Pour un dossier que j'ai fait sur la musique, j'avais repris le nombre de studios existants en 2005. Et je me suis renseignée sur l'existence de ces studios en 2007. En fait, dans toutes les adresses que j'avais prises de 2005, il y avait à peu près 60% des studios qui avaient disparu, dont de très gros studios professionnels. Et j'ai repris ce qui existait en 2007. Et j'étais très très étonnée, parce qu'en 2007, il y avait autant de studios existants. Ouais, mais c'est-à-dire qu'il reste encore quelques studios professionnels avec du très très gros matériel, mais sont arrivés une quantité de minuscules petits studios dits professionnels, avec du matériel home studio, très souvent bas de gamme.
Complètement. C'est là que c'est injuste, si tu veux, parce qu'on ne peut pas appeler studio tout et n'importe quoi. Voilà, un studio d'enregistrement, c'était quand même un lieu sain, il ne faut pas l'oublier, avec une vraie acoustique, une vraie taille, une vraie dimension, un encadrement et artistique et technico-artistique. Ça n'existe absolument plus. Alors, qui a le droit d'appeler et de se prétendre au studio? Et est-ce que le risque que les gens prennent à aller dans des structures qui ne sont pas faites pour ça, pour enregistrer des groupes, je ne parle pas forcément pour faire juste une voix ou un re-re de guitare, mais quand on va démarrer un projet, voilà, est-ce que les gens sont les studios dont tu parles sont des studios qui fleurissent et qui fanent aussi vite les uns que les autres? Voilà, est-ce que on a le droit d'appeler studio tout et n'importe quoi, c'est-à-dire quelqu'un qui a un Pro Tools là et, comme je te le disais, un préampli bas de gamme, si ça s'appelle un studio, où est le savoir-faire? Où est le... Et c'est une grosse problématique, c'est que les outils de maintenant qu'on utilise, par exemple, bon, on ne peut plus parler d'enregistreur, puisque maintenant ça n'existe plus, quasiment 80% des albums dans le monde sont faits sur les stations Pro Tools. Est-ce que néanmoins, un musicien, parce qu'un musicien, et c'est ce qui nous arrive aussi dans ce job-là, a acheté un Pro Tools et pour autant ingénieur du son? Le problème c'est ça, c'est qu'on a tiré vers le bas, on a démocratisé complètement l'ensemble de cette profession, c'est-à-dire l'ensemble des métiers. Les directeurs artistiques n'existent plus en tant que tels, sont plus des directeurs artistiques. Donc avant, attention, il faut savoir que moi quand j'ai vraiment démarré, et donc que j'étais musicien, j'avais un groupe qui s'appelait Minuit Boulevard et on a signé un contrat chez EMI. Tu avais un vrai directeur artistique, c'est-à-dire quelqu'un qui te faisait travailler des maquettes en 8 pistes jusqu'à ce qu'il possède ce qu'il avait, la vision qu'il avait du groupe. Et il faisait travailler les gens. Il y avait, c'était pas oui, Coco, on se la refait. Ça, c'était la légende, mais ils avaient une vraie implication dans les signatures qu'ils amenaient aux maisons de disques, parce qu'ils avaient un devoir de résultat. Si eux se plantaient, je veux dire, ils risquaient leur place, quoi, parce que c'était faire dépenser de l'argent aux maisons de disques, et il y avait une vraie recherche de qualité. Ils étaient. Il y avait une vraie recherche de la qualité. Maintenant, les directeurs artistiques, ils ne se déplacent plus, ils n'ont plus à se déplacer.
Bon, je vais assez critiquer la forme. Les directeurs artistiques actuellement n'ont aucun sens de la musique et sont
bien
plutôt
sûr
des directeurs commerciaux.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'on les met en tant que directeurs artistiques pour savoir si ça va se vendre ou pas.
Bien sûr, bien sûr.
Uniquement.
Ils n'ont plus d'implication depuis belle lurette dans le projet artistiquement. Ils sont complètement déconnectés de tout ça. Ils ont un devoir de résultat qui est de toute façon bien plus important qu'une nécessité de qualité et une vraie recherche. Et puis maintenant, ils n'ont plus grand-chose à faire puisqu'ils passent leur temps sur MySpace ou Dailymotion pour aller chercher des gens. C'est-à-dire que dès qu'ils voient maintenant, en restant chez eux dans les maisons de disques, en regardant, en se mettant des alertes sur les compteurs de visite de tel ou tel artiste qu'ils vont avoir trouvé sur MySpace, ben voilà, à un moment, ils se disent, quand il y a 100 000 visites sur un artiste, ils se disent, tiens, celui-là, on va peut-être commencer à faire quelque chose, parce que c'est intéressant. Donc, ils n'ont même plus à bouger. C'est fini. On est dans la virtualité totale du développement artistique. Il n'y a pas de développement. Oui, ils ne développent plus rien. De toute façon, ils ne mettent pas d'argent dans le développement. Ça, c'est clair. Déjà qu'ils ont du mal à assumer la continuité, la pérennité des artistes maison, les artistes, enfin quand je dis maison, c'est des gens qui ont déjà une carrière au sein des maisons de disques. Il ne faut quand même pas oublier que les gens comme Jonas, des gens comme Chamfort et tout, ils se sont fait expulser de leur maison de disques. Hein. Mm-hmm. Donc à un moment, ça en dit quand même long. De toute façon, ça ne veut pas dire que tout le crédit revient à ces gens qui se sont fait expulser des maisons de disques. Il y a une réalité de marché, il y a une réalité aussi d'albums de certains artistes qui ont coûté fort cher et qui étaient certainement démesurés. Moi, j'en ai fait quelques-uns qui ont coûté vraiment des sommes astronomiques. Et donc, c'est vrai qu'ils se retrouvent à l'heure actuelle avec des budgets qui ont été coupés, mais en 4 voire 5 par rapport à ceux auxquels ils avaient droit avant. Ça leur est peut-être difficile de se dire qu'on peut faire un album avec aussi peu d'argent, mais on peut le faire. Le tout est de savoir comment on le fait et si le peu d'argent ne devient pas ridiculement peu. Parce que c'est ce qui est en train d'arriver. Entre un budget de. Le moment où un musicien rentre en studio jusqu'au moment où on va mettre une bande master sur le bureau d'une major, il y a quand même un paquet d'étapes, c'est-à-dire des musiciens à payer. Est-ce que un album globalement, un album de studio sur un artiste en développement, on ne peut pas envisager de dépenser moins de 20 à 25 000 euros. C'est impossible. Si on peut tout tasser, on n'arrivera jamais à rentrer dans des tarifs qui seront en dessous de ça. Eh bien, ils essayent quand même et on arrive malgré tout à avoir des budgets d'albums. Moi, je te donne un exemple. Par exemple, en ce moment, je suis en train de mixer un album pour une jeune artiste qui s'appelle Lily Crow, que j'aime beaucoup. C'est un petit power trio avec une nana qui chante super bien, qui est vraiment adorable. Et son mec qui s'appelle Thierry Chazelle, dont je mixe l'album aussi, qui est vraiment super. Pareil, trio, mais assez original, parce que c'est violoncelle, batterie et guitare. Et voix, bien sûr. Avec beau texte, tous les deux. Enfin, c'est deux univers complètement différents et tout. Mais ce sont des productions indépendantes qui n'ont jamais été supportées par des gros labels. Bah, ils m'ont amené 24 titres à mixer. Le budget, c'est 8 000 euros. Donc voilà, qu'est-ce que tu fais, quoi? Quand tu te retrouves confronté à ce genre de truc-là, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi j'écoute, si ça me plaît, je dis bah ouais, écoute, je craque, voilà, je te le fais quoi. Et je le fais, alors je suis obligé de le refaire dans les trous et je leur ai dit que je passerai le temps qu'il faudrait, mais que je le ferai dans les moments que j'ai disponibles. Et bon, ça les pénalise parce que leur album sort plus tard que la période prévue, mais au moins, voilà, j'ai craqué sur ce projet, je vais gagner 8000 euros, ouais, c'est très peu sur la période et sur 24 jours de boulot, c'est ridicule. Mais il y a des gens qui méritent, et je pense que quand les gens méritent de le faire, et il va falloir que nous aussi, on s'habitue à ça, je pense que les budgets d'artistes indépendants, et il va falloir travailler là-dessus, et nous, s'occuper du développement, vraiment faire quelque chose pour le développement en France, et ben il va falloir accepter des budgets comme ça. Et moi, je ne suis jamais descendu aussi bas en tarif, parce que... j'ai envie de maintenir ma boutique, j'ai pas envie de mettre la clé sous le paillasson. J'aime mon job, j'aime ce métier-là et j'ai envie de... Je me dis que les dinosaures, c'est fini, quoi. Je suis fatigué de toute façon de la pression que ça met de travailler avec des gens avec qui c'est super sophistiqué de monter des budgets où on a une pression d'enfer. Et au moins, par exemple, bah, Lily Crow et Thierry Chazelle, quand je leur remets les mix, quand je leur envoie les mix, j'ai un retour qui est tellement plus positif pour moi que ce que je vais avoir sur un dinosaure pour qui j'aurais mixé un album avec tout ce que ça peut comporter. Alors pas tous, hein, de toute façon, y a des albums que je fais mais avec un plaisir inouï comme ceux de Zazie parce que c'est pour moi un artiste à part et c'est quelqu'un qui a un vrai talent d'auteur et qui a une façon de... en tant qu'artiste, de voir la vie qui me semble extrêmement réaliste et belle par rapport à beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'elle est, voilà, elle écarte vraiment les médias, c'est quelqu'un avec qui on peut avoir des discussions qui n'ont rien à voir avec le show business, et voilà, avec qui on peut avoir des vraies relations amicales, quoi, en tous les cas, en ce qui me concerne. Bon, je la connais depuis très longtemps, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'albums avec elle, etc. Mais ça reste, pour moi... une exception. Alors évidemment, ces albums sont c'est autre chose, parce que c'est extrêmement intense, voilà, j'allais dire. Parce que les textes sont forts, on vient tous, on a tous une assez grande habitude de travailler ensemble, et c'est des moments où on peut passer des moments très hauts et des moments très bas dans un album, mais il y a une complicité telle que on s'est fait avancer les uns les autres. Moi, je travaille depuis 15 ans avec elle, Et elle m'a appris beaucoup de choses et je pense que j'en ai appris aussi d'autres. On a évolué ensemble. Donc c'était très positif. Et je pense que c'est très valorisant de travailler avec des gens, bon, évidemment, comme cela, qui restent une exception chez les artistes, je le précise. Et c'est très valorisant aussi de travailler avec ces petits artistes qui amènent des choses qui sont franchement fantastiques. Et si moi je brasse sans arrêt sur le fait que les maisons de disques signent rien et qu'ils se bougent pas, qu'ils font pas de développement, et ben c'est par là qu'il faut commencer. Il faut se mettre au niveau de ces gens-là. Quand ils m'ont proposé 8000 euros pour leurs 24 titres, pour eux c'est beaucoup d'argent. Pour moi ça représente pas beaucoup, mais à un moment il faut faire le penchant. C'est vrai que je peux pas faire vivre ma boutique à des tarifs pareils, mais à un moment, je veux dire, c'est valorisant de le faire artistiquement parce que, au moins, voilà, quoi, quand je leur remets des titres, eux, ils sont par terre, ils sont super contents. Et c'est vachement valorisant. Et du coup, moi, je m'investis carrément vachement plus que ce que je peux m'investir quelquefois dans des projets qui sont pénibles, qui sont difficiles.
Est-ce qu'on n'a pas assisté à une dérive dans les années 80-90 ? J'en reviens à une interview de Massenburg qui disait autrefois, quand on enregistrait un artiste, quand on enregistrait un musicien, il avait répété avant, donc les prises, il y en avait très très peu, et en général c'était bon. Et lorsqu'il y a eu cette possibilité, grâce au modernisme, des appareils d'enregistrement, on est arrivé à avoir toute une génération de musiciens qui arrivaient pas préparés dans les studios, et qui finalement prenaient les studios d'enregistrement pour des studios de répétition, en disant, de toute façon, si ça va pas, l'ingénieur du son reprendra.
Complètement, je pense que, disons qu'on a abusé, quoi. Il y a deux catégories de... Je pense qu'on a pendant des années aussi surproduit la musique. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est dit, tiens, on peut... Moi, j'appelle ça parler aux échantillons. C'est-à-dire qu'à un moment, on se retrouve devant un écran, on n'entend plus le son, on le voit. Donc, on a une... Forcément, les réactions sont extrêmement différentes. Parce que on atteint, quelquefois, on perd le sens de la musique à proprement parler. Et on devient fou parce que à un moment on va zoomer un échantillon et on va voir que on n'est pas au sample près raccord avec celui d'avant, quoi. Et bon, à un moment faut arrêter les bêtises, quoi. Quand on donnait un coup de rasoir dans une bande, on n'était pas au sample, hein. On travaillait pas au sample près, hein. C'est clair. Et moi j'en ai donné, hein, dans des 24 pistes. Donc c'est vrai que on a eu tendance à se dire ah ouais, mais bon, tiens, c'est bizarre, ma basse, elle a 200 centimes d'écart avec l'attaque du pied et tout. On est venu à un niveau de perfectionnisme qui est assez destructeur pour la musique quelque part. Mais on en est venu là aussi parce que effectivement la performance des musiciens a été vachement médiocre pendant des années, et qu'à un moment on a fait de la musique avec des bouts de ficelle enregistrés, c'est-à-dire des choses qui étaient effectivement qui tenaient sur la technique et qui tenaient grâce au fait qu'on pouvait remettre en place les gens. On peut faire chanter juste, on peut tout faire. De toute façon, faut quand même que le public en soit lucide. On peut tout faire, donc tout est autorisé maintenant. Quand même, certains albums de la Star Academy, il ne faut quand même pas oublier qu'ils sont passés, je le dis haut et fort, s'il n'y avait pas autotune, ils ne seraient pas sortis, les albums. Hein. Donc, on accepte à la fois l'évolution de la technique, mais je pense qu'on est en train de justement s'apercevoir que ça a été bien trop envahissant et qu'à un moment, la vraie musique, c'est celle qui est jouée directement et ensemble et juste au même moment, quoi. Je pense qu'on est revenu d'ailleurs à des choses beaucoup plus saines et beaucoup plus live qu'avant, mais pas pour tout. On a laissé s'installer ça et la technique a pris le dessus sur l'artistique. Donc fatalement... c'est ce qui fait aussi qu'il y a une espèce de... Les deux mondes se sont rejoints et tout le monde se sent un peu musicien, ingénieur du son, puisque tout le monde peut manipuler. Donc un mec qui joue moyennement bien, qui arrange moyennement bien, il peut sortir quelque chose de franchement potable, puisque s'il passe le temps, il va avoir de quoi remettre absolument tout en place, chanter juste. Tout est permis, quoi. Ça, de toute façon, ouvre la porte à la médiocrité, hein, en tous les cas, celle de l'instantané, puisqu'on a le droit de reprendre et de refaire dans tous les sens. Donc certainement, ça, on s'est nourri de choses un petit peu artistiquement faciles pendant des années, puisque le niveau technique était tellement sophistiqué qui permettait de rattraper beaucoup de choses. Mais je pense quand même que là, on revient à des choses un peu plus vraies et réelles qu'avant. D'abord, il y a quand même d'excellents musiciens. Le niveau a quand même beaucoup changé en France. Je trouve qu'il y a, et dans le monde, hein, il y a quand même des musiciens hors pair et de plus en plus jeunes. Et puis des arrangeurs de plus en plus talentueux et des gens qui font vraiment leur... Voilà, l'ordinateur a cédé sa place enfin aux gens, à ce pour quoi il est fait. C'est-à-dire aider la musique, pas la fabriquer. Un ordinateur ne fabrique pas de musique. Je pense qu'on en était arrivé à ça et que maintenant on revient on revient très très vite, à grande vitesse et avec une soif terrible à la vraie prestation musicale et se servir de ça comme d'une aide. Pouvoir emmener les choses plus loin, mais pas fabriquer des choses qui n'existaient pas et qui n'existent pas.
Alors justement, on parlait de ces nouveaux musiciens, de ces nouveaux compositeurs, et j'ai en tête ce jeune qu'on commence à voir un peu à la télévision, c'est Stanislas. Ouais. Stanislas qui est sorti du Conservatoire supérieur de la musique, donc qui est chef d'orchestre, qui est compositeur, musicien, chanteur, et qui me paraît un ovni dans tout ce qu'on nous présente dans la variété française. Et lorsqu'il y a eu des prix qui ont été, je pense que c'est pour les disques d'or, et lorsqu'il est apparu à la télévision, malgré le son exécrable, etc., on a eu l'impression d'avoir un état de grâce à un moment donné.
Je pense que c'est assez rigolo, parce que moi je m'occupe de ces deux concerts là, à l'Alhambra, donc je connais bien Stanislas. Mais bon, il ne faut quand même pas oublier, tu vois, on dit un nouvel artiste, il ne faut quand même pas oublier qu'il a 35 ans. Et que, tu vois, alors évidemment, il a ce qui l'amène est jeune. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça fait une bouffée d'air et tu te dis, mais... Ça existe, ça, la vraie musique, et évidemment, mais lui, ça fait longtemps qu'il l'a fait, la vraie musique. Et c'est parce qu'il a été poussé par Callot, et que Callot lui a dit, il faut que tu y ailles, il faut que tu fasses ton album, et tout. Et que, c'est voilà, à un moment, il s'est lancé vraiment dans l'enregistrement de cet album, qui est, bon, mine de rien, aussi un ovni au milieu des albums, je parle même dans la fabrication, parce que, tu vois, ça nécessite quand même des moyens assez importants, parce que t'as un orchestre classique, t'as beaucoup d'arrangements, etc. Et puis, c'est un ovni, pourquoi ? Parce que, voilà, il joue, c'est un vrai musicien, contemporain, quelque part. Et c'est un amoureux de la musique, il chante très très bien, en plus. C'est quelqu'un qui a une très belle maîtrise des voix de tête et tout, il chante carrément super bien. Voilà, des jolis textes posés sur une belle musique, bien dirigée par lui. Tout d'un coup, évidemment, ça fait énormément de bien, quoi. Et moi, quand on m'a proposé de m'occuper de la scène en développement pour ces deux concerts, la tournée de la rentrée, j'ai dit tout de suite oui, parce que voilà, ça reste un challenge. Alors évidemment, c'est toujours pareil, ce sont des artistes en développement. Les moyens sont relativement restreints, mais qu'importe, quoi. C'est pas les... Faut arrêter à un moment, je pense que nous aussi, hein, moi le premier, hein, j'étais habitué à travailler un peu dans le luxe, avec beaucoup d'équipements, Mais à un moment, quand on se retrouve, on l'a fait sur des petites tournées avec Zazie, justement, qui a senti la nécessité de faire une tournée des petites salles qu'on avait marre des Zéniths, et ben c'est vachement bien, quoi. Tout d'un coup, on se retrouve avec même des équipements... Donc on avait il y a 10 ans des petits équipements sans rien, sans compresseur et tout. À un moment, faut creuser un peu la cervelle pour arriver à... Faut bouger les boutons dans le bon sens et ça fait un bien fou. Parce que quelquefois, avec du matériel bien moins sophistiqué, on a des résultats bien meilleurs. Parce qu'on oublie ça, quoi, qu'à un moment, à force de sophistiquer, ça peut se dégrader. Ça a un effet montant, c'est un peu comme un mixage, hein, quand tu passes beaucoup de temps à mixer un titre. Au-delà de 4 heures, 5 heures, c'est fini. T'es dans le sens montant pendant un moment, puis après, tu dégrades tout, tu casses tout parce que t'es plus dans la spontanéité, dans le petit... la spontanéité, c'est une chose qui est vachement importante. Et voilà, je pense que ce garçon, c'est marrant pour moi, c'est un peu comme si c'était un Scheller moderne, quoi, qui amenait des et puis avec des textes franchement poétiques, quoi, c'est super beau, quoi. Enfin, moi j'ai été très touché par ça. Je sais pas si toi du coup t'as
oui,
été
oui, non,
voilà, j'ai été très touché par.
J'en parle à cause de ça.
Le clip en plus, je l'ai trouvé assez franchement joli, quoi. Oui. Tout est élégant.
C'est amusant parce que pour moi c'est une élégance, il y a un romantisme français qui avait
absolument
complètement disparu.
Mais carrément, carrément. C'est un vrai romantisme et puis Bon, pas, tu vois, il y a eu des essais un peu dans cet esprit-là, sur des comédies musicales, mais là, au moins, tu sens, ce garçon, il a une vraie profondeur artistique, et moi, je suis déjà allé à quelques répétitions, tu peux pas savoir la maîtrise qu'il a, et on va dire c'est un jeune artiste, parce que c'est sa première son premier vrai clip qui fonctionne, son premier album qui a plus qu'un succès d'estime et qui est franchement bien parti. Mais tu verrais déjà, il a le trac beaucoup pour ses prochains concerts, mais il a une maîtrise de l'histoire qui est absolument incroyable, quoi. Et c'est très beau de le voir diriger ce groupe et cet orchestre et tout, parce que c'est un chef d'orchestre. Et donc, il a cette espèce de magie, mais douceur à la fois avec les gens, parce qu'il est très respectueux des gens avec qui il travaille. D'ailleurs, il travaille depuis très longtemps avec l'orchestre de Massy. Et voilà, il y a cette transmission, les gens sont à son écoute, il y a un vrai... J'adore ça, moi, je suis
carrément... Est-ce qu'on peut envisager qu'un artiste comme lui puisse faire une carrière internationale?
On pourrait, le problème c'est que... Le problème qu'on a vis-à-vis de l'international en France, c'est que les maisons de disques, les majors en France, ne le supportent pas. Je parle pas en point de vue caractère, c'est qu'elles sont pas faites pour ça, elles sont pas... Tu vas avec un produit exceptionnel en anglais en France, tu sors du rendez-vous sans rien dans une maison de disques, parce qu'on n'a pas on n'a pas la culture de ça dans les maisons de disques en France. Donc si tu veux signer à l'international, faut se déplacer, aller en Angleterre. Mais je pense que ça va être de plus en plus possible. Et j'espère. Après, si tu veux, c'est aussi une histoire de... je pense qu'on a eu des ratés aussi dans l'international. C'est-à-dire, il y a des disques d'artistes français, je ne vais pas citer de nom, mais qui ont été traduits en anglais, et dont on a été la risée du monde, tu vois ce que je veux dire, ne serait-ce que par l'accent, par toutes ces choses-là. Donc tu peux pas... Si tu le fais, il faut le faire. Il faut être capable de le faire. Et de supporter une carrière
internationale. Et pourtant, il y a des artistes qui sont passés, je pense à la chanson Voyage, Voyage de Desireless, qui a fait un carton à l'époque en Angleterre et ailleurs.
Voilà, des exceptions, c'est sûr. Mais ça n'empêche que si tu veux vraiment, par exemple, emmener un artiste comme ça sur l'international, il faudra à un moment qu'il traduise ses chansons et qu'il chante en anglais. Il n'y a rien à faire. Ce sera, à mon avis, à mon sens, très difficile de défendre une carrière internationale avec des textes en français. Après, qu'il y ait un mélange et qu'un artiste fasse une carrière avec des albums moitié en français, moitié en anglais, peut-être. Mais tu sais, et en plus, attention, hein, tu vois, défendre une carrière internationale, c'est quelque chose auquel les gens ne sont pas habitués. Par exemple, moi, souvent, je l'ai dit à Zazie, je lui ai dit, et parce qu'on lui a dit, les gens, les Américains, les Anglais, ils ont dit, mais cet album-là, il faut absolument le faire en anglais et tout. Mais c'est pas son... Tu vois, à un moment, il dit, non, moi, maintenant, voilà, j'ai une vie privée que je veux conserver, j'ai plus l'âge d'aller défendre une carrière internationale, c'est un investissement de 200 jours par an, et voilà, c'est... Elle aurait pu le faire, voilà, et elle ne l'a pas fait. C'est voulu, elle ne l'a pas fait parce qu'elle n'avait pas envie de le faire. Donc ça, c'est bien. Mais si tu veux, je pense que pour un artiste comme... moi je souhaite, hein, j'espère qu'il va y avoir des démarches de fait sur l'international, mais c'est très difficile parce qu'on parle d'autre chose. Là, en termes de disponibilité, de promotion, c'est très lourd, c'est très difficile. Donc je pense que tu peux le supporter quand tu as un certain âge. Tu le supportes de moins en moins quand tu grandis. À mon avis. Hein. Moi, enfin, ça ne me concerne pas en tous les cas. S'il y a des gens sur l'international qui veulent m'embaucher, moi je suis prêt à partir.
Dernière question, Yves Jager. Quel est le calendrier dans les prochains mois?
Le calendrier, c'est... j'ai le projet d'un très gros spectacle. Je ne peux pas franchement en parler parce que c'est trop tôt. Voilà,
et puis on croise les doigts, on touche du bois.
Voilà, c'est ça. Non, mais je ne peux pas en parler parce qu'il y a plusieurs personnes sur le coup, donc on ne sait jamais si on va avoir l'affaire. Là, je dois mixer, m'occuper du show de Solancy. Je dois terminer cet album de Lily Crow et de Thierry Chazelle, parce qu'ils sont en cours toujours au studio. J'étais sur la production de l'album de Scheller, mais elle s'est arrêtée brutalement parce qu'il a décidé d'arrêter notre collaboration. Donc ça m'a fait un petit peu mal après 15 ans de collaboration, mais c'est comme ça, il faut savoir l'accepter. Donc c'était un album qui était en cours, un très assez gros album, puisqu'on avait fait les cordes à Air Studio et que c'était un gros album de production. J'ai dans tous les cas dans le projet de faire un album pour... Natacha Saint-Pierre. Et voilà, tu sais, les projets, je pense que maintenant, ça reste malgré tout relativement à court terme. Et on ne voit plus les projets sur des années, quoi. Ces 4 dernières années, j'ai vraiment bossé et travaillé énormément sur beaucoup d'albums. Mais je pense que là, maintenant, on a une vision à 3 voire 4 mois, mais on ne voit jamais plus loin, quoi. C'est déjà pas mal. J'ai beaucoup de choses en cours, donc j'ai plein de choses qui ne sont pas terminées à finir. Donc je m'en contente largement pour l'instant. Ça remplit franchement bien mon planning, quoi.
Bien, merci Yves d'être venu.
C'est moi qui te remercie. C'était super sympa.
Oui, vraiment sympa. Et puis, bah, écoute, de toute façon, il y a quand même une actualité très très importante qui va arriver d'ici je ne sais pas quand. On va voir. Je pense qu'on va te revoir dans très bientôt.
Ah bah super.
Très très bientôt.
Ça me fera très plaisir.
Voilà. À bientôt.
Merci,
donc,
ouais.
Ici, autre radio, autre culture. Et bien la prochaine fois, nous allons avoir un débat sur le handicap et l'école. Au revoir. Autre radio, autre culture.